C'est une tâche très difficile de parler pendant ces moments-là. Beaucoup de gens m'ont demandé d'essayer de parler de notre situation, d'essayer de comprendre où nous en sommes. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Sachez que c'est une chose difficile. Beaucoup de choses doivent être tues aujourd'hui. Mais il y a des choses qu'on est obligé de comprendre. Il est évident que je n'aurai pas ni l'outrecuidance, ni la prétention de donner des conseils ou des mots d'ordre à qui que ce soit. Mais si déjà, je voudrais profiter de cette occasion pour essayer de comprendre avec vous des choses qui ont l'air simples, mais qui en fin de compte engagent toute notre perception et toute notre façon de nous conduire. Pour cela, je crois qu'il faut commencer par des choses du commun. Des choses dont malheureusement nous, ou peut-être quelquefois heureusement, nous n'avons plus conscience. Ça fait partie de notre vécu, de nos acquis. Et nous devons essayer de les définir. Si l'on demande à un scientifique « Explique-moi le phénomène de la création du monde. Comment, par qui, quoi ?» Tout celui qui est au fait de la science d'aujourd'hui, il vous ramènera à des choses qu'on entend tous les jours, mais on ne sait même plus qu'elles existent, à des choses très simples. La première chose simple qu'il faut connaître, c'est ce que le scientifique appelle les théorèmes de Gödel. Qu'est-ce que c'est que les théorèmes de Gödel? Ça date de la première moitié du XXe siècle. Et un philosophe mathématicien a défini les choses d'une façon simple. Tout système qui obéit à une logique, qui obéit à des lois, qui se tient, est obligatoirement le produit d'une source extérieure qui n'obéit pas à ses lois, qui est au-dessus de ses lois et dont aucune personne participant à ce système n'a la compréhension. C'est le premier de ce qu'on appelle le théorème de Gödel. Tu perçois qu'il y a des lois dans la nature? Tu perçois qu'il y a des choses logiques? Tu perçois qu'il y a un raisonnement? C'est obligatoirement le produit d'une source extérieure. Il y a quelqu'un qui a conçu cette logique, qui a conçu cette loi. Et cette source, par définition, elle était incompréhensible. C'est la première chose qu'on doit comprendre. Aujourd'hui, plus personne se met à penser ou imagine sans la création. Chacun sait qu'il y a un premier instant mais il y a une deuxième série de lois. Ça s'appelle les théories de Friedman. Pendant la même période, un mathématicien russe qui s'appelait Friedman a émis une théorie simple. C'est que le monde, l'univers est en expansion. Et en cela, il s'est mis en contradiction avec certaines des théories d'Einstein. Et en fin de compte, Einstein a été d'accord avec lui, a admis ce qu'on appelle les théories de Friedman. Au point qu'en Amérique, lorsqu'on l'a amené et on lui a montré une des preuves de l'extension de l'univers qui se voit dans la couleur des étoiles. Et on voit que l'univers grandit, que les étoiles grandissent. Il a regardé et il a dit « C'est la plus belle preuve de la création du monde que je n'ai jamais entendue. » Ces deux constances, ces deux constantes, elles font partie de notre intellect. Chacun, lorsqu'il raisonne, il a ça, que le divin ou l'infini ne peut être compris. Et que la façon dont notre univers est façonné, si ça obéit à des lois, c'est que la source, elle est extérieure et a façonné ses lois. Et que celui qui les a façonnées développe une énergie tellement prodigieuse que l'univers, là où nous sommes, c'est tout le temps en extension. On va traduire dans le langage des Chazal. Parce que lorsque vous demandez aux scientifiques « Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le monde ?» Il n'a qu'une seule réponse. Tu dis « Avant le monde ?» On ne peut pas dire qu'il n'y avait rien. On ne peut pas dire qu'il y avait tout. Et si on le dit, c'est vrai. Mais il y a une chose qu'on peut dire. C'est qu'il y avait des nombres mathématiques que nous n'arrivons pas, nous, à imaginer. Et si on va plus loin, le scientifique va répondre, avant le monde, il y avait justement la loi du monde. La définition, selon quel barème, selon quel calcul le monde allait être fait. Notre langage est plus difficile à comprendre. Mais il traduit exactement la même chose. Et on va l'expliquer dans notre langage qui est celui de la Torah. Si tu demandes aux Juifs qu'est-ce qu'il y avait avant le monde ? La question est difficile puisqu'il n'y a pas d'avant lorsqu'il n'y a pas de temps. Et pourtant, les Chazal nous disent qu'il y avait quelque chose avant le monde. Avant le monde, il existait la Torah. Istakel beoraita ubara alma. Ce que le site scientifique appelle la loi, nous appelons ça la Torah. On ne le réduit pas à la loi, parce que la Torah a d'autres fonctions encore. Mais avant le monde, il y avait la Torah. Ce que le scientifique dit, il y avait les calculs, il y avait les possibilités que nous ne pouvons pas comprendre, dont nous n'aurons jamais accès. Mais on a mis des équations en ordre. Qui l'a fait, on ne sait pas. Comment il l'a fait, on ne sait pas. Mais elles ont été mises en ordre. Avant que ça se change en maassé, en création, il faut une loi. Le scientifique te dira, avant la création, il y avait la loi. Nous nous disons, avant la création, il y avait la Torah. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que pour nous, création, ça n'est pas une chose qui a été faite dans un temps T seulement. C'est pour ça que nous disons tous les matins, M'chadesh betuvo b'chol yom tamid ma'ase b'reshit. Hachem, chaque jour, chaque instant, reproduit le ma'ase b'reshit. Le olam dvarcha Hachem, la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est le olam nitzav b'shamayim. Lorsque Hachem a dit yehi or, il a dit que soit la lumière, la parole créatrice, elle est encore là. Nous nous appelons ça ou la parole, le dibour, ou nous appelons ça le ratson, la volonté. Le scientifique, il appelle ça une énergie. Si on a bien en tête ces définitions, on va pouvoir essayer de comprendre comment nous nous abordons ces questions. La Torah ne nous décrit jamais le divin. La Torah n'est pas un livre. Et bien qu'elle a différentes formes, n'est pas un livre qui décrit Hachem. On ne parle pas d'Hachem, de son essence, de qui il est dans la Torah, jamais. La Torah, elle parle d'autre chose, selon la forme avec laquelle nous pouvons l'aborder. Elle parle pas de comment l'homme voit Dieu, elle parle de comment Akadosh Baruch Hu voit l'homme. C'est tout à fait différent. La Torah, elle nous parle de qu'est l'homme, qui est l'homme, comment l'homme doit se conduire, comment l'homme doit appréhender sa vie. Nous nous appelons le créateur Hachem. Hachem veut dire le nom. Le nom, c'est ce qui désigne ce que nous nous percevons de sa création. Mais jamais, au grand jamais, nous avons une approche qui peut être intime du divin par la connaissance. Personne ne nous dira ni les motivations, ni qui il est, ni comment est-il. La Torah n'en parle pas du tout. C'est quelque chose qui est impossible. Comme dit le scientifique, la source créatrice, par définition, elle t'est incompréhensible. Ne cherche pas à savoir qui il est. Cherche à savoir comment lui te regarde. Qui toi, tu dois être devant lui. C'est ça qui est intéressant. Et pourtant, pour nous, c'est difficile. Parce que très souvent, nous avons des questions qui sont souvent des questions sur nous-mêmes. On ne comprend pas le Créateur. On ne comprend pas pourquoi les choses se passent, les événements sont ce que nous voyons. Et quelquefois, quand ça nous fait mal, on a même des questions. Et on aimerait avoir une connaissance de celui qui est derrière. Au point que lorsqu'on est mis en cause, on ne peut pas s'empêcher de se dire, les uns diront c'est trop dur, les autres diront je ne comprends pas. Et les troisièmes, ils diront et c'est si important que cela. Parce qu'il y a une question lancinante. Tu vois le monde, c'est n'importe quoi. Tu vois que chacun, où on emploie la force, où on emploie la ruse, où on emploie le désir, tout le monde fait n'importe quoi. Et nous, nous devons faire attention aux petites choses de la vie, aux piretés pratim de halakhot. On doit étudier chaque chose selon l'alakha. On doit se demander, est-ce que c'est comme ci ou c'est comme ça, c'est moutard, c'est assour. On peut passer toute notre vie pour essayer de savoir la valeur de chaque petite chose. Et dehors, c'est n'importe quoi. Et nous, on est à la merci de n'importe qui. Et deux ou trois cinglés peuvent mettre la planète à feu et à sang. Et nous, on se demande. Il faudra rendre compte à Kadosh Baruch Hu de chaque chose. Entre parenthèses, petite chose. Ça nous est incompréhensible. Et nous devons l'admettre. Parce que la source créatrice du système, par définition, elle n'est pas compréhensible. C'est sa définition même. Et pourtant, on sent qu'il existe un sens. Et on va essayer de le définir. Il n'est aucune idée qui peut percevoir le divin. Hachem, pour nous, ce n'est pas une idée. Je ne peux pas avoir mes idées sur lui. Je ne peux avoir des idées que sur ce qu'il m'a demandé, sur les équations, sur les nombres qui ont fait que le monde soit, sur la loi. Ce que le scientifique appelle la loi, ce que nous appelons la Torah, là-dessus je peux avoir mon idée. Mais sur Hachem, sur le divin, je ne peux pas avoir d'idée. Je ne peux même pas avoir de connaissance. Et pourtant, je trouve un sens. Et là aussi, on doit essayer de le définir. Qu'est-ce que le sens de l'existence ? Si on se demande l'homme, quel sens trouve-t-il à son existence ? La réponse, elle est très simple. Chacun va percevoir que le sens de son existence, ça n'est d'abord pas lui qui le définit. Nous obéissons. Nous obéissons à la vie. Nous obéissons aux désirs, nous obéissons aux besoins, nous obéissons à tout ce qui nous sollicite et tout ce qui nous obéit. C'est ce que les Chachamim appellent Al-Kochacha Atachai. Tu n'as rien choisi, tu obéis toujours. Tu peux choisir entre différentes obéissances. Alors, quel est le sens que tu trouves à ces choses? Alors, sachez que dans les psaumes, il est marqué une seule chose. Le seul sens que l'homme perçoit, c'est sa propre durée. Le sens de la vie, c'est que bien qu'il obéisse, il participe. Il veut participer le plus longtemps possible et il veut participer de la meilleure façon possible. Il n'existe pas d'autre sens perceptible à la vie. Pourquoi tu veux vivre? Tu obéis à la vie? Ah non, non, moi j'ai choisi de vivre. Ou Bacharta, t'as choisi quoi? T'as choisi la durée. C'est quoi la durée? Je participe. J'existe. Si j'étais sûr d'exister pour les autres, ce serait encore mieux. Je ne suis pas sûr. Peut-être que chacun existe pour soi. Mais au moins, pour le Créateur, j'existe. Et là, on en arrive au dernier sens. Et celui qui n'arrive pas à faire la démarche, c'est qu'il lui manque dans sa pensée. C'est un goûteur de Torah. Il faut élaborer sa propre pensée. C'est qu'à partir du moment où on veut durer, et chaque homme a sa soif d'éternité, chacun veut vouloir exister dans la durée. Il veut participer. Quelquefois, les Chazal appellent ça « Shoutaf la Kadosh Baruch Hu b'Maas et b'Reshit ». Tu veux être associé, c'est ça le sens que tu donnes à ta vie. Et pour ça, il faut que ça dure le plus longtemps possible. Et pour que ça dure le plus longtemps possible, il y a une seule notion. C'est que la durée, elle ne sera acquise que par ton intégrité. Et chaque homme sent que plus il attache de valeur aux choses qui n'ont pas de durée, moins il a de la durée lui-même. On appelle ça la conscience. Un homme est capable même de faire fi de sa propre durée, mais il veut que les choses telles qu'il les conçoit lui durent. Il est même capable de se sacrifier pour le klal. Il est capable de se sacrifier pour une idée. Mais il veut que ce à quoi il tienne, il veut que ça, ça dure. Je me suis accroché toute ma vie à quelque chose. J'y tiens. Ce à quoi je tiens, ça doit vivre. Évidemment, ça peut passer par moi. C'est encore mieux. Et comment ça va passer par moi? Plus j'aurai de rapport et je serai intègre par rapport à ma propre personne, et plus je suis sûr d'être dans la durée. C'est ce que les Chazal disent. Al-Kochor ata atid liten din v'cheshbon. Un homme est prêt au din v'cheshbon. Il est d'accord. Il le veut, le din v'cheshbon. Parce que c'est sa seule durée possible. Personne ne veut que la vie s'arrête là où elle s'arrête. Mais pour ça, chacun sent qu'il faut avoir une promiscuité, on va dire même une intimité avec le divin. Parce que tu ne connais plus les caractères de la vie. Ce qui se passe après, tu n'as plus de définition. Tu n'as qu'une promiscuité avec le divin qui te permet de penser. Et c'est ça qui fait que l'homme a besoin d'être intègre. Il a besoin de faire face à lui-même, c'est-à-dire de faire face à l'idée qu'il a de lui-même. Nous ne pouvons pas avoir d'idée sur Akadosh Baruch Hu. Au contraire, l'idée que nous avons de nous-mêmes, c'est la sienne. C'est lui qui l'a pour nous. C'est nous qui adoptons ses idées. Nous n'avons pas des idées sur lui. Mais nous savons une seule chose. C'est qu'il existe une promiscuité, il existe une intimité. L'homme intègre, l'homme qui peut rendre des comptes, il est proche du divin. Il n'a plus besoin de la base vitale telle qu'il la voit pour exister. Pourquoi ? Parce que son sens de l'existence, qui est donné par Hachem et pas par lui, il en a une vraie intimité. C'est pour ça que celui qui n'a pas le sens du divin, il n'a plus de besoin d'être intègre. Il peut aller selon ses désirs un jour ou l'autre. Nochal venishte ki machar namut. Il n'y a pas d'intégrité. Il n'y a pas de règle à respecter, puisqu'un jour ça s'arrête. Alors est-ce que tu as décidé qu'un jour ça s'arrêtait parce que tu ne veux pas d'intégrité? Ou tu as décidé que c'est le contraire? Chacun doit faire ses comptes. Nous n'avons pas ce problème-là. C'est pour ça que lorsqu'on parle, la Da'at et Hachem, connaissance de Dieu, comme toujours, la traduction, elle est fausse. La Da'at, en hébreu, on peut comprendre connaissance. Mais il y a un autre sens qui est plus proche. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître parce qu'on n'a pas les idées pour l'enfermer. Je ne pourrais jamais dire, moi, le divin pense que, le divin veut que, le divin... Je ne pourrais pas. Même les neviim, même les prophètes ont toujours dit qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Ils n'ont jamais dit qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu conçoit. La seule solution, puisque je ne peux pas avoir d'idée, ça il faut que chacun se le mette dans la tête. Lorsqu'on n'a pas d'idée sur une chose, que la chose ne peut pas être un objet qui nous appartienne par l'idée. Parce que même une étoile, si j'arrive à la définir, j'arrive à connaître la grandeur, la couleur, la densité, en fin de compte, l'idée de l'étoile m'appartient. Presque l'objet m'appartient, puisque j'en ai une idée. Ça que Da'at, il ne faut pas le traduire connaissance, il faut le traduire compréhension. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Celui qui se sent bien avec lui-même, ou même celui qui fait des efforts pour être bien avec lui-même, il n'a pas d'idée du divin, mais il a une compréhension du divin. Et nous, on nous demande beaucoup. On nous demande énormément. Il y a un verset dans Iov très troublant, très difficile, qui commence par l'injonction Hen. Vous connaissez l'injonction Hen? Hen, voici. Lorsqu'on veut isoler quelque chose, lorsqu'on veut que tu fasses attention à une idée, que tu la tiennes isolée, en hébreu on dit Hen. Hen am le vadad yishkon u bagoyim lo yitrashev. Hen, c'est une constante. Nous, notre peuple, le Vadad Yishkon, on est seul. Bagoyim lo yitrash. On ne sera jamais compté parmi eux. Même aujourd'hui, des dizaines d'années après, on commence à reparler, et les Juifs, et les Juifs, et le Juif. Alors qu'on croyait qu'on était des citoyens. Alors qu'on croyait que... Et voilà, ça recommence. Hein, comprends, Hein. Hey, nun. Dit le Midrash, il y a deux lettres qui n'ont pas de benzoug. Il y a deux lettres qui n'ont pas de correspondant. Parce que dans la série des dizaines, ou dans la série de la dizaine, le nombre 5, le Hey, c'est le seul, dit le Midrash, qui n'a pas de benzoug. Pour faire 10, tu prends le 9 et le 1, le tête et le aleph, ça fait yod. Tu peux prendre le bet et le chet. Et tu vas arriver au vav et au dalot, si c'est 4, Et la seule lettre qui n'a pas de benzoug, qui n'a pas d'associé dans le klal, c'est la lettre hey. Il en est de même pour la lettre nun. Chaque fois qu'on veut isoler hein, am le vada dishkon. N'oublie pas tous tes efforts d'assimilation. Même pire que ça. Aujourd'hui, il y en a qui croient encore que Yaakov va éduquer Esav. Ils croient que Esav cherche l'éducation, qu'il a besoin de nous pour être éduqué. Nous, on va te montrer qu'est-ce que c'est que la France. Sans nous, tu n'es pas français. Hein, tu n'as pas compris. Tu es seul. Et un autre verset qui fait peur. Hein, yikteleini lo ayachel. Qu'est-ce qu'il dit Yov? Hein, yikteleini. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux prendre ma vie? Même si Akadosh Baruch Hu veut prendre ma vie, lo ayachem, c'est vers lui qu'ira mon espoir. Voilà l'intimité avec le divin. Hein, il y a une relation, mais cette relation, si on était en logique, on dirait que c'est une relation absurde. Hein, ikteleni, lo ayachem. Toujours seul. Ah, tu veux la relation avec le divin? Yikteleni. Et celui qui l'a oublié, malheureusement, en entendant des juifs qui sont allés chercher des chalot, on le lui a rappelé. Heureux comme un juif en France. On t'a rappelé ta situation. Hein. Et toi, tu dois arriver à ce qu'il dit Yov. Hein yikteleni. Ça me coûte la vie. Lo ayachel. Je n'espère que d'Akadosh Baruch Hu. Mais si tu n'espères que de lui, et que ça en arrive à yikteleni, il te prend ta vie. Mais alors, c'est ça l'éternité. C'est ça l'intimité avec le divin à Bataille. Quand on entend qu'un juif a été Mkadesh Tachem, quand on entend que quelqu'un est rentré dans un magasin, il s'est fait tuer parce qu'il était juif, c'est le juif en nous qui quelque part yikteleni. C'est lui qui quelque part doit être prêt à disparaître. Pas toujours l'autre. L'autre n'est pas mon feu rouge ni mon feu vert. Le cynisme de dire, ah oui, on est prévenu, il faut qu'on s'en aille parce que tu crois vraiment que l'autre est parti pour te prévenir. C'est ton feu rouge, ton feu vert. C'est l'indicateur. L'autre, il est en train de te dire quelque chose. Est-ce que toi, lorsque tu réfléchis, tu es d'accord d'être à sa place? Est-ce que toi, quand tu réfléchis, c'est l'eau à Yachel. Tu penses que ça peut être un but pour l'homme? Ça veut dire que l'éternité, quelquefois la durée, elle trouve le jour d'aujourd'hui, le moment, le hayom, insupportable. Yikteleni. Ça devient insupportable, insignifiant. Dino Midrash El Ginat Egoz Yaradati. Akadosh Baruch Hu dit quelquefois je descends et le clan Israël est appelé Egoz vers le verger Egoz où poussent les noix. Dino Midrash, qu'est-ce que c'est que ce mot-là, Egoz? L'amadim shelu Israël Egoz. Il dit attention, Egoz, Notlim, Echad, Mehem, Kulam, Midgalgalim. Lorsque tu vois un tas de noix, lorsqu'on prend une noix au milieu, toutes les noix autour roulent. Kulam, Midgalgalim. À nous de comprendre comment on roule, où on roule, de quelle façon on roule. Mais tu dois être Midgalgalim. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas ici de mots d'ordre, je dois rester, je dois partir, je dois ceci, je dois cela, où serais-je en sécurité? On ne s'adresse plus à des gens qui perdent leur vie à la gagner, qui perdent leur vie à se soigner, qui perdent leur vie à la vivre. On parle de gens qui ont un sens de la vie. Il y a un grand Shiva qui est connu, qui s'appelle Reb Shimon Shkop, et qui a dit une chose très simple, que tout le monde doit connaître. Ce sens de l'éternité, cette promiscuité avec le divin, que nous ne pouvons pas appréhender par les idées. Mais dont nous avons une compréhension. Évidemment, comme le scientifique, il va te dire, mais la source du système, tu ne peux pas l'aborder. Non, je ne peux pas l'aborder. Mais chez nous, il existe quelque chose qui s'appelle Olam Haba. Il y a une promiscuité. Il y a quelque chose qui peut s'appeler Me'ein Olam Haba. Il y a Aïn Lorata Elokim Zulatecha Lamcha Kelo. Nous ne savons pas ce que c'est l'Olam Haba. Nous ne savons pas ce que c'est que cette source. Mais nous avons une intimité avec elle. Nous la comprenons. Mais nous la comprenons à travers des notions difficiles. On appelle ça Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh, évidemment, c'est donner sa vie. Et malheureusement, il y a un sefer qui s'appelle le Torah Traim qui parle de ça. Il dit qu'on a peu qui donnent leur vie au quotidien. Alors tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu se sert lui-même. Donner sa vie, c'est pas obligatoire de mourir. Monsieur Hautnefès, c'est de faire un effort, il dit Reb Shimon Shkop, chaque fois que tu auras fait quelque chose en étant désintéressé, parce que tu veux participer, pas parce que tu veux gagner, pas parce que la sensation de participer te fait plaisir, tu es même prêt à le sacrifier pour le klal si l'autre participe, et que ça existe, ça te suffit. Cette notion de la durée et du divin, chaque fois que tu fais une action, mais tu la fais désintéressée, ça s'appelle la kedusha. Il dit non, on a l'habitude de penser à la kedusha, c'est se séparer des choses, voir les choses d'une façon éloignée. Il dit c'est vrai, kedoshim tiu, rachidi, prushim tiu, vous devez être séparés, vous devez être au-dessus des choses. Mais il y a un deuxième sens, qui est la continuité. Dans chaque action, tu dois pouvoir être intègre dans l'action. C'est ça la durée. La durée, elle n'est pas pour que toi tu participes. Elle est pour que ça existe. Elle est pour que toi, tu fasses partie du projet. Pas pour que le projet fasse partie de toi. On appelle ça la Kedusha. Kedoshim Tiu. Il dirait Pshim Shkop, ça veut dire sois intègre, sois propre avec toi-même. Lorsque tu fais quelque chose, qu'il n'y ait aucun intérêt personnel. Tu participes. C'est bien de participer. Tu as besoin aussi d'avoir l'idée de participer. Tu as besoin d'avoir le plaisir de participer. Donc tu participes pour te voir participer. T'es le zéro. On ne participe pas pour le plaisir de se voir, ni pour la photo. On participe pour participer. Banim atem lachem elokechem. Parce que Akadosh Baruch Hu t'a donné le titre de Banim, Kiam Kadosh Ata. Il y a une certaine Kedusha dans le clan d'Israël. Qu'est-ce que c'est que cette Kedusha? C'est que nous avons appris tôt, très tôt, pas comme ceux qui nous entourent, qu'une action, elle peut s'inscrire dans la durée. Mais il faut qu'elle soit propre, qu'elle soit intègre. Et la certitude que nous donne la Torah, elle doit se conjuguer avec l'incertitude de l'intégrité. On doit être anxieux à chaque instant. Est-ce que je peux encore faire mieux ? Être encore plus intègre ? Ce qu'on appelle quelquefois l'ishma, désintéressé. Plus j'ai la certitude que l'action est vraie, plus j'ai la certitude que je suis dans le bien, et plus je suis dans l'incertitude. Et cette conjugaison de la certitude et de l'incertitude, c'est ça le juif. Celui qui n'a pas cette incertitude, il n'est pas angoissé à perpétuité, parce qu'il veut participer. On te dira, mais plus tu sais que tu fais bien. Non, plus je sais ce qui est bien, mais que je le fasse bien, ça veut dire que je participe, je m'inscris dans la durée. Il y a quelque chose qui peut exister, propre, l'olam, comme un diamant qui ne s'altère pas. Il y a quelque chose qui peut être au niveau du divin. Si oui, alors ça peut me coûter très cher. En yekatleni lo ayachel. Il faut être prêt. Il ne faut pas fuir. Et pourtant, ces notions-là, elles ne sont pas simples. Il faut savoir les élaborer. Un homme doit comprendre qu'il doit avoir cette démarche. Ça doit être la sienne. Et chaque jour, il peut progresser. Ce que M. Cachan a appelé tout à l'heure des kinyanim. Le kinyan, ça veut dire je m'adresse à quelque chose de plus haut. J'ai évolué, je possède quelque chose. Je suis au deuxième échelon. Parce que le premier, je le possède. J'y suis déjà passé. Maintenant, il faut aborder le problème de la galoute. C'est qu'en hébreu, le mot galoute et le mot geoula, c'est le même. Sauf que quoi ? C'est dans le mot geoula apparaît ce qu'on appelle le echad. Alors on va essayer d'expliquer. Sfat-Emet dit, c'est très connu, galout milachonit galout. La galout, ça va révéler la personne. Parce que dans la galout, il y a la notion du yachid, tu es seul. Qu'il n'y a pas dans la geoula où tout le monde est ensemble. Lorsque le peuple juif vivait sur sa terre où il a vécu très peu, dès la création du monde, le Midrash nous parle. Chosher al pene tohom, c'est les quatre galouyot. Dès le brit belaptarim, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a fait l'alliance avec Abraham, tout de suite, arba galouyot. Mais la galout permet au yachid d'évoluer. Pourquoi ? Parce que cette sensation d'être dans la durée, lorsqu'elle s'émousse, lorsque l'intégrité est perdue, ça ne se rattrape pas au niveau général, ça se rattrape au niveau individuel. La galoute permet à l'individualité d'avoir son style. Le juif d'ici ne ressemblera pas au juif de là. L'époque dans laquelle celui-ci sera et l'époque dans laquelle l'autre est là, c'est une autre forme de galoute. La galoute, ce n'est pas le problème du non-juif, c'est notre problème. Et nous assumons. La galoute, c'est une façon pour le juif de progresser. Dit le Maharal, pourquoi ? Parce que le peuple juif, il est sikhli. Sikhli, ça veut dire il est envahi par la pensée. Le juif est un homme sikhli envahi par la pensée. À partir du moment où on l'empêche, dit le Maharal, d'être trop adapté au gouf, ça veut dire que on va lui enlever un petit peu de confort, on va lui enlever un petit peu de richesse, on va lui enlever un petit peu de certitude, on va lui enlever un petit peu de jouissance. Alors, il est plus facile pour le Sechel. Mais malheureusement, nous voyons que la galoute, elle s'éternise. Pourquoi ? Parce que finalement, la galoute, elle appelle la Geoula. La galoute, elle appelle la délivrance. Et la délivrance, il n'y a plus de gouffre. Il n'y a que de sirli. Ah, Kadosh Baruch Hu nous met à l'épreuve dans le gouffre, dans ce qui est matériel. Dans la galoute, tu ne perdras jamais de ce qui est spirituel. Au contraire de le Midrash, Yafé Midali Bukhurbanayoter Mi Babinyana. Le juif, dans la galoute, n'est pas moins que le juif qui est en Eretz Israël, qui a vécu. Dans la Rouchniout, dans la capacité d'être juif, on n'a jamais perdu. Mais on a perdu dans le confort. Et c'est pour ça qu'on est en galoute. Parce qu'on recherche encore ça. Il y a trop de gens chez nous. Nous sommes trop des gens qui nous sentons bien lorsque la vie s'écoule sans rien faire. Plus tu es content, plus tu arrives à quelque chose, et plus tu te sens bien. Donc la galoute, elle a fait son œuvre. Elle a évacué toute une partie. Des fois, les gens me demandent, c'est pas mieux de partir ? Je dis, peut-être c'est mieux, oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tous les cadavres ? Il me dit, quel cadavre ? À chaque génération, nous laissons ici 50 à 70% de juifs qui deviennent goy. Il faut le savoir. Ah, tu pars, toi ? Et qu'est-ce que tu fais des cadavres ? C'est ça la galoute, Rabotai. La galoute, c'est ce qui reste. Ce qui va rester. Et la galoute, elle ne peut pas être faite de pleutres. Ça ne peut pas être les gens juste qui veulent se protéger, c'est pas ça. Tu parles toi aussi du gouffre. Mais pourquoi tu veux partir ? Parce que je me sens plus en sécurité. Tu rêves ou quoi ? Tu rêves. Arrête, lorsque le goy te frappe, il y a un issur mina Torah. L'otira meem, c'est un issur mina Torah, il dit Rabbi Yonon Sharet Shuva Perigimel. Il y a un issur, une interdiction, un lave de la Torah d'avoir peur. N'aie pas peur du goy, que tu as peur de lui. C'est lui qui tue. Tu crois vraiment que c'est lui. Et tu vas être en sécurité là-bas. Ici, tu regardes à la porte du supermarché. Et là-bas, tu regardes à la porte de l'autobus. Et quoi ? C'est de ça qu'on parle ? C'est de ça qu'on parle ? Tu crois qu'on a laissé 6 millions et on va parler de ta petite personne ? Mais il faut être fou. Mais c'est pas ça, on ne parle pas de ça. Il y a un juif qui meurt. Il y a du Kiddush Hashem. C'est quoi Kiddush Hashem ? Le non-sens pour nous. Pour être kadosh, pour avoir ce détachement, cette intégrité, il faut côtoyer la mort. Il faut être loin du gouffre. Lorsqu'on touche le égoz, on touche la noix. Les autres mitgalgalim, ils changent. Ils se définissent autrement. Il dit Rabbeinu Olam, ça y sur la Torah, le tiramehem, n'aie pas peur. Au contraire, tu n'as à rendre compte et à te référer qu'au Ribbono shel Olam. On ne te demande pas de chercher le danger. On ne te demande pas de vivre dans le danger. On te demande de ne pas avoir peur. C'est pas de ça, le juif n'a pas peur de la vie. Souvent, nous passons longtemps à avoir peur de la vie. Et plus la vie est longue, et plus on se soigne. Et je dis, mais pourquoi tu vis ? Pour me soigner. Et me soigner pour vivre. Et on va où, là ? Et tu vas mourir en bonne santé, c'est ça ? On est où, là ? C'est pas notre vie à nous, ça. Nous, on est sikhli, dit le maral. Am kadosh atal Hashem Elokim. On t'a donné la Torah. On t'a dévoilé la loi. Bien sûr qu'on t'a pas dit tout. Bien sûr qu'il y a des choses que tu perçois pas. Bien sûr que tu penses que si tu étais le bon Dieu, une fois tu donnerais plus de choix, une fois tu donnerais moins de choix, tu aurais fait le monde autrement. Mais c'est pas ça que tu recherches. Toi, tu recherches à participer. Tu recherches à quelque chose qui va durer, qui existe dans la durée. C'est ça que tu recherches. Alors, on ne peut pas parler maintenant de Nous, on va se mettre à ça. Et qui c'est qui va donner les mots d'ordre? Sachez un clal. Chaque fois qu'un homme se mêle de la vie de l'autre, c'est qu'il en a intérêt. Et l'intérêt, il est tellement bas qu'il vaut mieux pas le définir. Donc chaque fois que quelqu'un dira « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça », ça y est, j'ai compris. Moi, je ne suis pas l'objet de ton intérêt. T'as intérêt à ceci, t'as intérêt à cela. Les exploiteurs, ils voulaient rester dans le désert. C'est une vie qu'ils connaissaient. La vie en Eritrée, ils ne connaissaient pas. Ils pensaient même que c'était impossible. Ceux qui vont vous dire de rester, ils ont un intérêt, comme les explorateurs. Et ceux qui vont vous dire de partir, c'est qu'ils ont déjà le tiroir à caisse ouvert. Ils sont là pour encaisser. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ça. Comme le problème n'est pas d'éduquer le goy, pas longtemps quelqu'un m'a dit, vous savez, dans une ou deux générations, peut-être le goy l'aura compris, parce qu'on nous dit, juifs de France, faut pas quitter la France, hein, parce que sinon la France n'est plus la France. Ah, c'est ton souci que la France soit la France, t'as tout compris, toi. Ah ben c'est ça. C'est ça la durée, la France, c'est la durée. Mais on rêve, là. À partir du moment où on en bouge une, coula mit galgalim. C'est tout le monde qui doit changer. On doit changer d'optique. On doit changer de façon de vivre. Même le goy ne comprend plus. Il y a un goy gentil. C'est un soldat. Il est chez nous. Alors. Il m'a dit, monsieur, je peux vous demander une question. J'ai toujours pas compris. Pourquoi chez vous une supérette, ça s'appelle hyper? Je lui dis, moi non plus, personne n'a jamais rien compris. On n'est pas obligé de comprendre. Il me dit, mais alors, c'est pas intentionnel? Je ne sais pas, chez nous, plus c'est petit, plus c'est hyper. Comprenez comme ça. L'insignifiance du bonhomme. Il me dit, parce que vous savez, même à la radio, ils ne savent jamais comment dire. Parce qu'ils disent, la supérette hyper. Hey, c'est rigolo, hein? Il me dit, c'est un tout petit truc, et il marque hyper. Bon. Mais on n'en est pas là, nous. On ne va pas encore lui donner des leçons à l'autre. T'as vu de quoi on est capable, nous? Seule chose que t'as eue, c'est que tu t'appelles encore hyper. Et le hyper du cachère va savoir s'il est cachère. C'est pas possible. On ne peut pas être à ce niveau-là. Nous, on en est à un autre niveau qui n'a rien à voir. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Al-Tira, n'aie pas peur de lui. La galoute, c'est ton problème. Comment tu te sens ici, c'est ton problème. Mais ce n'est pas à l'autre que tu vas rendre compte. Et plus tu désireras aller au Lamazé, plus tu vas te rapprocher de Esav, et plus la galoute, elle va durer, et plus on va laisser les cadavres ici. Le cadavre, ce n'est pas le mort seulement. C'est les enfants, les 60% de mariage mixte, ceux qui, après deux, trois générations, ont des noms qui fleurent l'ailleurs et qui sont devenus français. Ils sont devenus français. Comment il est devenu français, celui-là? Et c'est la galoute. La neshama, elle s'en ira, mais le gouffre, il va rester. Dit le Maharal, le peuple juif, c'est un peuple qui est sikhli. Il fonctionne avec sa tête. Il n'est pas gouffané. Évidemment que tu as besoin de moyens. Évidemment que tu aimes être heureux. Évidemment que... Mais ce n'est pas ça ton approche du divin. Ton besoin de promiscuité avec le Créateur, ton besoin de te fondre en lui, c'est ce qu'on appelle le besoin de la durée, de l'éternité. Il ne va pas être satisfait comme ça. Tu vas partir. Parce que tu veux devenir qui? Tu veux devenir quoi? Celui qui vous dit que la Yiddishkeit, elle serait, elle est ici, il ment. Celui qui vous dit que la Yiddishkeit, elle est là-bas ou l'autre part, il ment. C'est à chacun d'essayer de voir où il sera mieux, parce qu'il sera toujours dans la galoute, mais on l'aura fait changer pour mieux. Où il s'inscrira dans quelque chose qui est l'éternité. Et ce n'est pas la peine de croire que c'est le confort, c'est la facilité. Ce n'est pas ça. C'est là où il pense que c'est le mieux pour lui. Et si quelqu'un pense vraiment, et je suis prêt moi à le respecter, que le meilleur judaïsme, la meilleure façon de vivre, c'est la France, et qu'on produit le meilleur du judaïsme, Il a une loupe que je ne dois pas avoir, peut-être même un microscope que je ne connais pas. Mais je suis prêt même à le penser. Mais il faut qu'il le prouve. Il faut qu'il soit sérieux. Et si tu penses que là où tu vas, tu seras mieux, prouve-le aussi. Montre pourquoi c'est mieux. Essaye de voir comment tu peux être mid galgel. La galoute, ça vient milachongal. La mer, elle bouge. Les événements, ils nous prennent en chasse. Il dit le Ramban, nous nous dépendons des goyim. On a le même mazal qu'eux. Et je vais vous dire une chose. On peut le dire puisqu'on est entre nous. Il a écrit dans le Midrash une chose terrible. C'est dans Bereshit, Perekret. Lama amim bismanazé de vouyim usrofim. Tu sais pourquoi il y a des maladies, des gens incurables dans les hôpitaux, des misérables, des miséreux. Pourquoi les goyim sont comme ça? Sous-entendez quelle est la question? Esav, Ishmael, ces gens qui ont choisi l'Olam Hazé, que ça peut lui faire au bon Dieu leur donner l'Olam Hazé? Ils ont choisi l'Olam Hazé, il va être heureux ici. Après, on tire un trait. Eh bien, laisse l'Olam Hazé. Pourquoi ils sont tellement malheureux? Et la réponse, elle est terrible. S'ils savaient, ils nous mettraient dehors tout de suite. Mipnei Israël, Shelo Yagidu, Israël, Meonim, Israël de Vouyim Usrofim. La nature est faite que la différence entre le juif et le goy s'estompe. Celui qui a des problèmes, c'est le juif. Le goy, il n'a aucun problème, il est bien dans l'Olam Hazé. Il est médecin ou dentiste, il a acheté son petit pavillon. Voilà, il a fait sa petite culture, le petit brouillon. Et voilà, il s'est même rapproché de la Torah, pas trop, mais il est tout, il est bien. Mais c'est Esav, ça. Comment t'es devenu Yaakov? De Vouyim Usrofim. Ce sont des gens qui souffrent. Le goy souffre parce que nous, nous souffrons. Et pour qu'il nous pointe pas du doigt, alors c'est l'égalité dans les deux. Il en est de même de l'autre côté. C'est que quelquefois, il y a des catastrophes qui ne nous concernent pas. Il est du mazal qui ne nous concerne pas, dit le Rambam, regardez le parchat de Brugota, parchat de Kitavo. Mais il dit, on est dans la galoute. On fait partie de leur mazal. Il y a une crise. Très souvent, c'est à cause de pas, à cause de nous. Il y a aussi celui qui n'a vraiment pas de mazal. Il y a des gens, je les connais, il suffit qu'ils investissent quelque part et ça chute. Bon, mais ils sont rares quand même. La plupart, c'est la conjoncture, le machin. C'est pas lui d'Afka, bien que... Il y en a, on doit se méfier parce que ils achètent des actions en tel et tel, ça y est, c'est fichu. Mais ils sont rares. Normalement, c'est le mazal du goy, c'est pas le nôtre. On est rien là-dedans. On n'a rien à voir là-dedans. Attention. Mais à un moment où le bon Dieu nous pointe du doigt, on appelle ça le Kiddush Hashem. La Kedusha, c'est l'être intègre. La Kedusha, c'est que tu peux t'inscrire dans quelque chose. Et peut-être tu as donné ta vie pour ça, mais c'est pas grave, tu es inscrit là-dedans. Ce qu'on appelle Amsirus Nefesh, l'intégrité vis-à-vis de soi, la promiscuité avec le divin. Et plus on est angoissé par ça, plus on essaie de travailler pour que les choses elles soient sans intérêt ou même contre notre propre intérêt, et plus on est sûr de soi. Et les deux notions de savoir comment il faut faire, mais de savoir est-ce qu'on le fait bien ou non, elles doivent se conjuguer et s'épauler mutuellement. Et c'est ça qui donne l'homme juif. Sans ça, il n'y a pas d'homme juif. Je voudrais juste terminer par une seule notion. C'est que ce que nous nous avons dit, que la source ne peut être appréhendée par l'objet du système ou celui qui fait partie du système, c'est peut-être pas si sûr. Il y a peut-être une exception quelque part. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas, nous, puisque nous ne l'apprenons pas, jusqu'où va ce qu'on appelle le Olam Haba. Il y a un Midrash dans Devarim Il dit une notion terrible. Yomru Malachi Hasharet. Nous, on traduit Malachi Hasharet Yomru, c'est-à-dire que la nature qui est créée par Akadosh Baruch Hu, elle va dire en pointant du doigt le juif, Domim Atem le Rabchem. Mot à mot. Vous vous rendez compte que vous ressemblez à votre maître? Voilà. C'est incroyable. Et il dit, qu'est-ce qu'il a dit David Améler? Que Moem Yosem. Celui qui pratique l'idolâtrie, celui qui s'attache aux bêtises. Il y a des gens là-bas qui feront encore les comptes. Ils vous parleront de Parnassa. Mais ils seront, je ne sais pas, dans les couloirs, dans les loges, dans les ravins, dans les... Que Moem Yosem. Si celui qui s'attache aux bêtises, à l'idolâtrie, c'est-à-dire à donner une force à ce qu'ils n'en ont pas, celui qui perd sa vie à la gagner, je dis, qu'est-ce que tu as fait toute ta vie? Il a gagné. Ah, t'as gagné quoi? Ta vie? Mais alors, mais comment t'as gagné ta vie? Tu l'as perdu à la gagner? Il a perdu la vie à la gagner. Que Moem Yosem. Il dit le Midrash, chacun y ressemblera à ce qui produit. Tu as produit l'éternité, tu as produit de l'Olam Haba, tu es shutaf, tu es quelque part avec Akadosh Baruch Hu b'Maaseh Bereshit, ça s'appelle que tu vas lui ressembler. Atem domim le Rabchem. Et ça, c'est une expression qu'on ne connaît pas. Ça s'appelle la Kedusha. Ki Kadosh Ani Hashem. Et pourquoi nous, on s'appelle Am Kadosh? Parce que tu vas pouvoir faire des choses sans intérêt aucun. Et la chose la pire, qui va même selon le contraire de ton intérêt, c'est Monsieur Otnefesh. Et le bon Dieu peut te le demander. Tu es un juif, il peut te demander de mourir en juif. Il peut te demander de mourir pour la mitzvah. C'est le comble de la Kedusha. Tu as fait quelque chose qui va contre toute possibilité. Donc, la Kedusha, c'est ce qui te rapporte, ce qui te rapproche de Kadosh Baruch Hu. Dirait Shimon Shkop, c'est pas seulement pour mourir. Parle pas des grands mots. C'est vrai qu'il y a des situations difficiles. Mais ramène ça à la vie de tous les jours. Tu peux aussi vivre dans la Kedusha. Fais des choses selon ce que tu penses être le vrai, sans que ce soit ton intérêt. Il est temps que Kadosh Baruch Hu fasse qu'on soit réunis encore pour des smachot, qu'on entende des bonnes nouvelles, que Kadosh Baruch Hu console tout celui qui peut être consolé, et qu'on a un avenir meilleur, où va le Tzion Goel. Amen.